Parlons éthique et affaires, votre rendez-vous mensuel pendant lequel les étudiants du master droit et éthique des affaires reviennent sur un pan du droit encore méconnu du grand public. Des interviews de professionnels du monde de la compliance vous en diront davantage sur la relation qu'entretiennent les entreprises avec l'éthique.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons éthique et affaires. Aujourd'hui, nous allons vous parler des droits humains et plus précisément, quel rôle ont les entreprises dans la protection de ces droits. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Maître Brabant, avocat au barreau de Paris, qui vient tout juste de rejoindre le cabinet Trinity International en tant que senior partner à Paris. Vous êtes également reconnu pour votre expertise toute particulière concernant les dossiers de sources naturelles en Afrique et notamment les droits de l'homme, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Bonjour Maître Brabant.
Bonjour.
Bonjour. Pour mettre un petit peu de contexte sur le thème d'aujourd'hui, il faut rappeler que les activités des entreprises peuvent avoir un large éventail d'incidences sur les droits de l'homme. Souvent, ces incidences sont multidimensionnelles et sont influencées par le type d'industrie en question, le pays et le contexte local selon l'état du développement. Dans la société de plus en plus globalisée qui est la nôtre, les entreprises ont un rôle important à jouer sur le plan social. De ce fait, elles peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les droits humains. Les incidences positives sont par exemple l'emploi, l'amélioration des compétences et les contributions au développement économique au niveau local. Cependant, il y a de nombreuses entraves aux droits de l'homme, par exemple droit de la santé, droit de propriété ou bien droit à un niveau de vie suffisant. On peut citer par exemple la rupture d'égalité entre les salariés, que ce soit au niveau de l'égalité de rémunération, l'égalité de traitement entre les salariés d'une même entreprise, etc. Mais on retrouve aussi des atteintes aux droits des salariés à travailler dans un environnement sain, notamment par les industries polluantes et les entreprises dans lesquelles les salariés sont amenés à manipuler ou à respirer des substances toxiques. Les entreprises peuvent également avoir recours au travail des enfants ainsi qu'au travail forcé via leurs sous-traitants, qu'on peut définir aujourd'hui comme de l'esclavage moderne. Finalement, les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans la protection de ces droits qui sont encore aujourd'hui bafoués. Donc notre première question pour vous, Maître Brabant, serait comment est-ce que vous avez eu un déclic dans votre vie professionnelle sur cette nécessité de préserver ces droits humains et de limiter les violations faites par les entreprises ?
Alors, c'est une question précise que vous posez dans une introduction qui l'était aussi, d'ailleurs. Je trouve que votre introduction a été pertinente et j'aurais simplement relevé que vous avez identifié certains des secteurs clés dans le problème des droits humains qui sont un peu la cartographie des risques, ce que vous avez fait et que je trouve très habile, et en rappelant que cette question des droits humains peut-être très diverses en fonction des activités des entreprises, en fonction des pays, etc. Et c'est le lien probablement avec ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est que je suis avocat spécialisé dans l'énergie et les ressources naturelles, et plus particulièrement en Afrique. Pas uniquement, mais fortement en Afrique, au moins 90% de mon activité. J'ai commencé il y a plus de 30 ans, et comme le monde a changé. À l'époque, il y a plus de 30 ans, être avocat spécialisé dans les questions pétrolières et les questions minières et les questions d'infrastructures liées aux miniers et aux pétroliers étaient des questions qui relevaient sur une attention que nous portions sur les risques pour les entreprises. Uniquement. Et il y a encore 30 ans, c'était bien le principe de Friedman qui s'appliquait à l'industrie et aux activités des entreprises, de nos clients, qui étaient essentiellement, voire exclusivement, de veiller à faire en sorte que les entreprises aient des activités profitables sur le long terme et le principe de Friedman dans les intérêts des actionnaires. Comment ai-je été sensibilisé ? J'ai envie de dire que j'avais peut-être tout de même une sensibilité personnelle qui existait ou qui préexistait à l'humain dans les activités de façon générale, et c'est vrai que je me suis toujours un petit peu positionné comme étant un humaniste européen, j'ose le dire. J'ai toujours un petit peu fait référence dans ma vie au bon siècle des Lumières, qui a toujours été pour moi une référence de valeur assez forte. Donc il y avait une prédisposition qui faisait que mon attention était probablement très naturellement attirée vers les situations dans lesquelles il pouvait y avoir des droits humains qui étaient probablement pas respectés et que cela me sensibilisait. Et effectivement, les choses se sont faites un petit peu à la fois. Et j'ai moi-même été de plus en plus sensibilisé à partir du début du XXIe siècle par ces questions qui ont été soulevées par un grand homme, qui est un Africain d'origine, qui était Kofi Annan, qui était l'ancien secrétaire général des Nations Unies, et par un autre grand homme qu'il avait nommé, qui était le professeur John Wiley. Et entre les deux, j'avais aussi participé dans le cadre d'autres associations, notamment pétrolières, et initié des réflexions sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a un tas de choses comme ça qui commençaient à naître au début du XXIe siècle, le fameux discours de Davos de Kofi Annan, et qui nous menaient, pour ceux qui le voulaient bien, à se poser des questions. Et quand on voyait des situations, de se dire « mais c'est tout de même curieux ce qui se passe ». Et j'ai été amené à voir, dans notamment des projets miniers, des enfants travailler et essayer de gratter dans des trous assez profonds et étroits avec leurs ongles pour essayer de ramasser du cobalt ou un minerai de cette nature, du nickel. Et c'est choquant. C'est très choquant. On ne peut pas voir des situations de cette nature, être avocat de droit minier et avoir son portable, savoir qu'une partie de ces minerais sont dans mon portable, bien confortable pour ma vie de tous les jours, et avoir dans la tête cette image qu'il y a des enfants qui ont dû aller gratter certains de ces minerais pour pouvoir nous permettre d'accéder à cette consommation. Et donc mon attention a été plus que appelée, j'ai été un peu bouleversé par ce que j'ai vu. Et donc je me suis très vite, rapidement intéressé de façon beaucoup plus approfondie sur qu'est-ce que ça voulait dire, un petit peu toutes ces notions dont on parlait, qui étaient diffuses, et qui le sont toujours un petit peu d'ailleurs. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Et chose la très curieuse, c'est que quand j'ai commencé à m'y intéresser au début du XXIe siècle, notamment dans les années 2004, 2005, dans ces années-là, eh bien, j'avais pris des initiatives avec d'autres personnes, dans le cadre d'une association, qui était une association tournée vers les activités pétrolières, et ces initiatives ont fait l'objet de quelque chose qui a été pour moi assez douloureux, parce qu'il y a eu, on va dire, pas beaucoup, mais une communication qui a été faite par des sociétés pétrolières, au cabinet dans lequel j'étais, et pour leur dire, si Stéphane continue à s'occuper de ces questions de développement durable, de respect des droits humains, par les entreprises, par le monde des affaires, on peut plus être client chez vous, c'est pas votre métier. C'est tout de même un peu choquant. Donc j'ai été choqué par ce que j'ai vu, et j'ai été choqué par la réaction du monde des affaires. Je les blâme pas. C'était l'époque. C'était probablement pas de leur part quelque chose qui était méchant, qui était volontairement dirigé contre moi. Mais c'était le fait que dans le monde des affaires, ils estimaient, et je dois dire, à juste titre, que ces questions-là, c'était des questions qui relevaient de la responsabilité des États. Est-ce que ces entreprises avaient raison? La réponse est oui. Mais, que s'est-il passé? Kofi Annan et le professeur John Wiley, qui l'avait nommé, pour examiner ces questions de façon prospective, s'est aperçu qu'en réalité, les États, ou trop d'États, étaient défaillants dans leurs obligations de protéger et de faire respecter et faire respecter les droits fondamentaux des êtres humains. Et là, cette réflexion a donc incité le fait qu'il fallait trouver un substitut. On ne pouvait pas continuer. Ce n'était pas possible. Et Kofi Annan, avec John Wiley, on peut le dire, ont fait le XXIe siècle, en poussant cette réflexion jusqu'au bout. Moi, les critiques que j'ai reçues, vous imaginez celles qu'ils ont reçues. Eh bien, nous avons continué. On était très peu au début. Et maintenant, on est beaucoup. Voilà comment je pourrais résumer un petit peu la situation.
D'accord. Donc vous nous avez un petit peu voilà évoqué et parlé du professeur John Ruge notamment, et pour poser un cadre un peu plus historique et aussi légal, on va revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Il faut savoir du coup qu'au niveau international, la nécessité de protéger les droits de l'homme face aux entreprises, et donc voilà ce concept de business and human rights a débuté notamment en 2005 lorsque le secrétaire général des Nations Unies a nommé un représentant spécial pour les entreprises et les droits de l'homme, dont le but était de concevoir un cadre de référence. Et donc en 2008, ce cadre a été accueilli à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a ensuite été décliné en principes directeurs qui, eux, ont été adoptés en 2011. Donc ces principes, ils sont définis dans ce qu'on appelle le cadre Ruggie, pour John Ruggie qui en est à l'origine, et ils reposent sur trois piliers qui sont complémentaires liés. Donc le premier pilier, c'est l'obligation des États de protéger leur population contre les atteintes aux droits de l'homme commises par les tiers, y compris des entreprises, donc par le biais de politiques, de règlements et de décisions appropriées. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Et enfin, le troisième et dernier pilier, ça concerne l'accès à des mesures de réparation judiciaires ou non judiciaires qui devront être prises par les États et les entreprises à l'intention des victimes d'atteintes aux droits de l'homme liées aux entreprises. Et une autre question, plus précisément, c'est comme nous le savons, vous avez été l'un des experts du groupe d'examen des questions portant sur les droits de l'homme en vertu du mandat du professeur John Woogie, donc à l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce concept de business and human rights?
Je pense que la bonne définition ne serait pas la mienne, c'est celle qui est dans les principes directeurs. Et il y a deux choses que l'on pourrait dire pour résumer, pour que ce soit bien compris. D'abord, je crois que, pour répondre à votre question, je crois que les uns et les autres, les unes, les uns et les autres, on peut tous admettre que nous avons des droits fondamentaux où que nous soyons dans le monde. Et ça, c'était les principes universels des droits de l'homme. Ces principes universels avaient été adoptés à l'unanimité aussi, sauf cette abstention. Sept pays s'étaient abstenus, mais il n'y avait pas de vote négatif. Ce sont donc des principes universels. Et on peut tous admettre, et c'était là la puissance de la réflexion de Kofi Annan et de John Ruggie, c'est de dire ces principes universels, de ces droits fondamentaux, doivent être protégés par les États, principe numéro un, les principes premiers. Et je vais me répéter, mais ça n'est pas grave. On s'est aperçu que c'était finalement du droit international public, mais que il existait dans les activités économiques, de la part des sociétés qui devenaient de plus en plus puissantes, de plus en plus importantes, de plus en plus, qui jouaient dans un rôle de plus en plus significatif, non seulement dans le monde des affaires, mais dans l'organisation des sociétés, de la société en général. On s'est donc aperçu qu'elles avaient un rôle à jouer et qu'on ne pouvait pas, je vous répète, laisser que les États. Quel était le fondement de ces droits humains qu'il fallait respecter? Ça a été résumé par John Ruggie, la dignité humaine. Tout simplement. Donc, pour répondre à votre question, j'en appellerai à chacune et à chacun. Donc, quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas dans nos activités, d'entreprise ou autre, mais d'entreprise, nous parlons des entreprises aujourd'hui, de toujours s'interroger sur le respect de la dignité humaine. Donc, quand vous me posez la question, qu'est-ce que je pense de Business and Human Rights ou le respect des droits humains par les entreprises, eh bien, pour moi, c'est de dire, je me répète, deux choses. Comment mettre en œuvre? On est tous d'accord pour dire qu'il faut respecter la dignité humaine. Personne ne peut dire non, on n'en a rien à faire. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas un chef d'entreprise, il n'y a personne ne pourrait dire ça. On parle bien de valeurs universelles. Mais les entreprises ont une tendance à dire, mais c'est nouveau pour elles. Donc elles vont dire, mais comment je dois faire? Quels sont les outils? Je veux bien respecter les droits humains. Mais d'abord, je n'y suis pas habitué, c'était les États qui devaient le faire. Maintenant, on me demande de le faire. Alors, déjà, on peut répondre, il y a une partie de droit positif, de droit dur qui s'applique, le droit du travail, le droit de la sécurité, de l'hygiène, tout ça, c'est déjà le droit de l'environnement qui préexistait aussi, qui existe. Il existe déjà des choses, c'est un petit peu comme l'histoire de, je parle en faisant la prose ou des vers, des proses sans le savoir. Mais en réalité, le respect des droits humains existait déjà. Les gens ne le savaient pas bien. C'est pour ça que s'opposer au fait du respect des droits humains par les entreprises, ça avait très peu de sens. C'est quelque chose qui existait déjà dans de nombreuses branches du droit humain. Mais c'est ce concept général de dire, aujourd'hui désormais, je réponds à votre question, il fallait un outil. Et cet outil, ce sont les principes directeurs des Nations Unies, qui ont été aussi, vous l'avez rappelé, adoptés à l'unanimité du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est donc un outil universel. Eh bien, est-ce que ça n'est pas tout de même un peu presque normal de se dire que pour des valeurs universelles, on a un outil universel et qui concourt à quelque chose d'universel, la dignité des êtres humains?
Du coup, est-ce que vous pensez qu'avec ce cadre RUGI, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une réelle progression concernant les obligations qui incombent aux entreprises?
Alors, au moment où étaient rédigés les principes directeurs en 2011, cela d'ailleurs va faire 10 ans, et la date d'anniversaire c'est le 7 juin. Donc les 10 ans c'est le 16 juin, donc votre initiative aujourd'hui est une très belle initiative. Quel meilleur anniversaire que de pouvoir le fêter autour d'un micro, tous ensemble, et de pouvoir en parler. Les principes directeurs, il convient de le souligner, ce n'est pas du droit dur, du droit positif, c'est un droit dit souple. Alors, il y a eu de nombreux débats, est-ce que c'est un droit souple, un droit doux, un droit mou, un droit... Je ne vais pas rentrer dans ces débats, j'ai toujours l'occasion de discuter avec certaines ONG avec passion sur ce sujet-là. Et ce droit a été volontairement un droit souple. Pourquoi? Parce que le monde des affaires, et peut-être certains États, mais en tous les cas, le monde des affaires n'en voulait pas trop. Et beaucoup de choses lui en viennent à ça. Ils n'en voulaient pas trop. Ils estimaient, je me répète, ça fait les États, ça n'est pas nous. Il y a une tentative d'un traité qui avait été préparé en 2004 et qui a été rejeté. Et très probablement rejeté par les États, mais très probablement sur des recommandations fortes de certaines des entreprises de pays qui ont lutté contre l'adoption d'un traité sur ce sujet-là. Et donc, le droit souple a toute cette vertu, c'est de pouvoir faire admettre des choses qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que on ne peut pas, qui n'ont pas la sanction devant un tribunal, comme une règle de droit. Sanction, je dis bien, devant un tribunal. Et donc, comme il n'y avait pas de sanctions qui étaient prévues, eh bien, l'adoption de ce type de texte a été facilitée. Et vous voyez bien qu'une fois qu'on a adopté un texte de droit souple, à l'unanimité, cela voulait dire qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Et donc, cela voulait dire que, au travers de ce texte, on pouvait commencer à mieux sensibiliser l'importance. Donc, au lieu d'être dans un rejet par un droit dur, eh bien, on y va doucement par un droit souple pour faire prendre conscience, pour participer à faire changer l'état d'esprit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quel chef d'entreprise aurait pu dire « Moi, je ne veux pas respecter les droits humains ». C'est pas possible. Mais il ne voulait pas être obligé. Donc, le droit souple l'a aidé, a aidé le monde des affaires à mieux comprendre. Pour ma part, je trouvais ça très bien. Devoir changer du jour au lendemain, sauf quand c'est quelque chose de dramatiquement grave, criminel, mais là, on ne rentre pas dans cette matière-là, on parlerait de droit pénal. La corruption fait partie de cet élu changement du jour au lendemain, et ça, c'est normal. Mais là, l'évolution qui était nécessaire et la prise de conscience par les entreprises était tellement sensible qu'il fallait prendre ce temps d'un droit souple qui, au fur et à mesure, je dirais, s'est endurci. Et oui, les entreprises ont commencé à changer d'état d'esprit. Oui, les entreprises ont été sensibilisées de plus en plus. Oui, on était quelquefois dans des conférences où on était deux ou trois et maintenant on est 500 ou 1000. Oui, on n'était que trois ou quatre à pouvoir en parler et maintenant on est plusieurs centaines. Oui, il y avait des entreprises qui étaient seules dans leur coin à se dire comment vais-je faire pour respecter les droits humains et maintenant on pourrait dire qu'il n'y a aucune grande multinationale sérieuse qui pourrait ne pas s'y intéresser, savoir que ce que cela veut dire, ne même plus réfléchir de savoir si c'est un droit souple ou un droit dur. Et on y arrive maintenant à quelque chose d'absolument formidable. C'est à l'occasion d'ailleurs des discussions au niveau européen, c'est que des entreprises et de plus en plus demandent un droit dur, parce qu'elles demandent d'avoir un cadre pour leur sécurité juridique, un cadre qui détermine précisément ce qui est attendu d'elles. Donc on pourrait beaucoup épiloguer sur ce sujet, mais pour répondre à votre question, la grande vertu de ces principes du directeur, de John Waggy, ça a été de diffuser, je dirais, la bonne parole, de faire prendre conscience et d'un peu à la fois arriver à quelque chose de capital dans la vie, à mon sens, c'est l'acceptabilité. Il n'y a rien de plus important et de plus vertueux que de faire accepter quelqu'un un principe et un concept que nous pensons devoir s'imposer, mais que les autres pourraient ne pas vouloir se voir imposer. Il faut prendre du temps. Et je dirais même que c'est aussi vrai dans la vie privée. Imposer des choses, quelquefois on est obligé, ça peut arriver avec un enfant turbulent, mais on aime bien aussi expliquer les choses. Et l'acceptabilité des choses, c'est probablement une des choses vertueuses. Et en matière de droits humains, qui est un droit très sensible, faire accepter était quelque chose d'important. Certains vont dire que ça n'a pas été assez vite, parce qu'il y a des choses horribles qui se passent, encore aujourd'hui, et qu'on donc, il faudrait être beaucoup plus en du droit dur. Et ça, le grand débat d'aujourd'hui, pour conclure, c'est un petit peu bavard, le grand débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que ce droit doit être un droit obligatoire ou un droit volontaire? Eh bien, on parle aujourd'hui, de façon officielle, partout, dans tous les pays, de mixte. Comme on parle du mix énergétique, eh ben on parle aussi du mix en matière des droits humains. C'est c'est une complémentarité entre des parties de droit dur et des parties qui peuvent rester en droit.
Merci beaucoup pour votre réponse. Et pour cette quatrième partie, on va prendre un point de vue un peu plus pratique. Avec cette première question, aujourd'hui, en tant qu'avocat, vous participez à cette protection. Mais de quelle manière? En fait, on aimerait vous expliquer aux gens comment, en tant qu'avocat, on peut en fait participer à la protection de ces droits-là.
Cela me rappelle des discussions que j'ai pu avoir, notamment avec le professeur John Waggy et d'autres. Et on parlait notamment de l'importance d'un traité international en matière de droits humains. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tentative qui a été en 2004, qui n'a pas abouti pour toutes les raisons que j'ai décrites. Et là, on en reparle. C'est le fameux traité à l'initiative de l'Équateur. Je me rappelle dire à cette époque-là, parce que beaucoup disaient le traité, ça va être très difficile à faire adopter, parce que toujours les mêmes problèmes, on va pas y revenir. Et à ce moment-là, je voulais dire, je n'étais probablement pas seul, mais je le pensais fortement, que à la place d'un traité qui va prendre du temps, il y a quelque chose qui prendrait moins de temps et qui est déterminant pour faire changer les choses, c'est le rôle des avocats et des juristes. Parce que la vérité, c'est que les avocats et les juristes, on va dire les avocats et les juristes en général, chez les anglophones, on dit les lawyers, et ils sont tous pareils. En France, dans nos pays, il y a encore une distinction, dans ces matières-là, il ne peut pas y en avoir. Donc, les avocats juristes impliqués dans le monde des affaires, ont un rôle déterminant à jouer. Et le rôle déterminant à jouer, donc pour répondre à votre question, il est essentiellement d'en faire aider, participer et contribuer à faire prendre conscience à leurs clients, aux sociétés, au monde des affaires, de cette importance de respecter les droits humains dans leurs activités. C'est-à-dire que je considère que quand on fait une opération, que ce soit de fusion et d'acquisition, d'une transaction, d'une négociation d'une convention minière ou pétrolière, voire même à l'occasion de certains sujets qui relèvent de matières telles que la fiscalité. Eh bien, je pense qu'il est un devoir des juristes de se rappeler ces valeurs universelles, puisque nous sommes juristes, de se rappeler des outils qui sont mis à la disposition, et je dirais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, je vais aller loin. Que notre client le veuille ou le veuille pas, et j'ai été confronté à cette situation, et bien qu'on ose lui dire « Attendez, là je dois appeler votre attention. » Pourquoi? Même si l'entreprise ne le veut pas, il faut le faire d'abord parce que ça fait partie de notre rôle et c'est dans l'éthique, mais c'est aussi une conviction personnelle de nous juristes et avocats et une certaine déontologie, finalement. Et c'est aussi l'intérêt de nos clients. Car aujourd'hui, quel projet, quelle activité, quelle entreprise peut penser qu'elle pourra avoir une activité durable dans le temps si elle ne respecte pas ces droits humains qui évoluent tous les jours un peu plus? Ce serait une très mauvaise idée de la part d'un avocat ou d'un conseil extérieur ou du juriste dans l'entreprise de ne pas penser au long terme de la pérennité de l'entreprise. En conséquence de quoi, vous voyez bien que le rôle du juriste, où que nous soyons dans le monde, à l'égard du monde des affaires, nous avons ce devoir. Mais je considère pour ma part que notre rôle d'avocat a changé aussi avec cette matière, parce que nous avons en face de nous des entreprises qui ne font pas uniquement face aux tribunaux avec les sanctions qu'un tribunal pourrait décider, mais il y a bien d'autres sanctions que nos entreprises vont se faire infliger bien avant par ce qu'on appellerait un peu le tribunal populaire, ce que j'ai appelé dans un article les nouveaux juges, et qui sont les populations, les ONG, la presse, l'entourage, toutes ces gens qui sont autour d'un projet. Même aujourd'hui, chose extraordinaire, les banques sont elles-mêmes dans une situation de sanctionner d'une certaine façon, en ne donnant pas le financement demandé, voire, et il y a des cas, en le suspendant au titre de certaines clauses ou autres. Donc on voit bien que tout est en évolution. Et le rôle du juriste, j'ai publié un article d'ailleurs sur ce sujet, que vous pourrez voir dans LinkedIn, suite à deux conférences que j'avais données, sur la révolution du droit au travers des droits humains avec le R entre parenthèses. C'est-à-dire c'est une évolution et une révolution. Mais on voit, entre le droit de la salle publique et le droit privé, le droit public et le droit privé, entre un tas de notions de droit, les choses évoluent au travers des droits humains. Droits humains qui est un droit qui était essentiellement public et qui aujourd'hui devient du droit privé. Donc on voit bien que la pensée du juriste, la pensée de l'avocat doit être prospective, doit être visionnaire, doit être en avance du temps, s'il doit être bon conseil pour leurs clients.
Du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait que les entreprises ont besoin d'avoir des outils sur lesquels s'appuyer, comment aujourd'hui une entreprise doit-elle agir et donc sur quel outil elle peut s'appuyer si elle souhaite mettre en place ses obligations?
Alors, votre question, elle est diverse, mais on va essayer de la faire simple. Parce que votre question, elle est fondamentale pour les entreprises, parce qu'elles sont perdues. Quand on voit le nombre de textes qui s'appliquent aujourd'hui, et il y a une très brillante avocate qui est au barreau de Paris et au barreau aussi de Washington, qui s'appelle Elise Gou, et qui a publié un article magnifique pour parler de la galaxie des normes, qui démontre l'évolution de ces normes, et qui sont très diverses, qui sont des normes de droit souple, des normes de droit dur, des décisions de justice, des normes nationales, des normes internationales, des normes régionales. C'est extraordinaire, le nombre des normes professionnelles. Vous en parliez tout à l'heure dans votre introduction. Je dis normes, exprès. Et il existe un socle commun pour les entreprises. Puisque par exemple, dans le droit en France, vous avez le droit au devoir de vigilance qui est le seul pays au monde qui a un droit dur qui englobe la notion de respect des droits humains par les entreprises. Et pourtant, un droit qui s'applique de façon universelle, qui chapeaute et qui couvre tous ces droits, ce sont les principes directeurs des Nations Unies. Le droit français ne s'applique qu'à certaines entreprises. Le descriptif du droit français s'inspire des principes directeurs des Nations Unies, c'est d'ailleurs dans les débats parlementaires. Donc on voit bien que le socle commun de la pensée, le socle commun de ce qui doit être le conseil qu'on va donner à une entreprise, et répondre à votre question, le socle commun en tout état de cause qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité, quel que soit l'impact négatif, c'est les principes directeurs des Nations Unies qui seront le socle ou l'outil que l'entreprise se devra absolument de respecter. Et moi, pour ma part, aux clients que je conseille, sur le devoir de vigilance français, j'ajoute toujours, voilà le devoir de vigilance français, mais je me dois d'appeler votre attention aussi sur certaines des dispositions des principes directeurs des Nations Unies, surtout dans certains de ces aspects qui seraient plus sévères que le droit français. Et là, la différence se fait.
Mais est-ce que vous trouvez finalement que dans ces principes directeurs, les dispositions sont assez pratiques et techniques pour pouvoir permettre aux entreprises de se retrouver, de savoir comment faire et par quel biais passer si elles ont envie justement de protéger ces droits?
Je dirais oui et non, mais c'est rare les lois qui sont à ce point détaillées, sauf dans certaines matières comme le fiscal ou le pénal. Et dans les principes directeurs, vous avez peut-être vu dans les 31, je crois, 31 de dispositions, il y en a une qui parle, je ne sais plus dans quel terme exactement, de la nécessité de s'entourer d'experts en matière de droits humains pour bien comprendre. La rédaction de ces articles a été particulièrement bien faite en langue anglaise, donc la traduction en français quelquefois est rendue un peu complexe, même si j'ai envie de dire avec un peu d'humour que la langue anglaise n'est finalement que le français avec un accent différent, toujours est-il que je me méfie toujours des traductions. Et est-ce que les principes directeurs sont un bon outil? Je dirais absolument oui. Est-ce que ça mérite de l'interprétation et des ajustements? Je dirais oui, mais ça n'est pas du tout original. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que je vous ai parlé de l'universalité des droits humains. Je vous ai parlé de l'universalité de l'outil. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait une universalité dans les décisions et dans les décisions de justice notamment. C'est-à-dire que les cours et tribunaux de tous les pays du monde, lorsqu'elles doivent faire référence au principe directeur, là c'est encore une autre question parce que faire référence à un texte de droit souple, de droit intérieur public dans des affaires qui sont droit privé, on va pas en discuter parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Mais j'aurais envie de penser et d'espérer que l'ensemble des États, des pays, des juridictions pourraient essayer de dégager au travers, dans leurs décisions, lorsqu'elles sont sollicitées, au travers, par exemple, de la transposition des principes directeurs, par exemple, en droit national français, puisqu'il y a des similitudes, eh bien, quand on utilise des termes qui sont les mêmes, comme le devoir de vigilance, comme la due diligence, comme il y a des termes qui sont les mêmes, qu'on reprend dans toute législation, je voudrais rêver, je voudrais espérer qu'il y aura une universalité aussi, et pourquoi pas que les juges français consultent ou regardent les décisions anglaises, américaines, allemandes, gabonaises, sud-africaines, chinoises, russes, des Émirats arabes unis, de toutes les cultures. Et je voudrais croire que cela peut arriver. Et c'est la raison pour laquelle a été imaginé, et j'y ai participé, des juridictions en arbitrage international qui seraient des règles, des forums communs, donc un peu universels, on va dire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais résumer, mais qui tendent à faire en sorte que les droits humains puissent faire l'objet de décisions par des principes et ou des instances internationales.
Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs, qui sont une partie prenante importante de l'entreprise, prennent de plus en plus conscience de ces sujets, comme on a pu le voir notamment avec la mobilisation sur les réseaux sociaux pour la communauté Ouïghour. Et donc, de plus en plus de consommateurs veulent participer à une économie qui serait éthique et parfois vont même jusqu'à boycotter les marques connues pour non-respect des droits de l'homme. Et donc, on voulait savoir, est-ce que vous pensez que cette prise de conscience et cette mobilisation grandissante des consommateurs a aujourd'hui et aura dans le futur un impact sur la volonté des entreprises et l'envie des entreprises d'encore plus s'investir dans cette protection des droits de l'homme, plus que les obligations qu'elles ont déjà?
Pour moi, c'est une certitude. Même si c'est une certitude qui va faire son chemin avec un peu de temps, et je me rappelle avoir fait des interventions il y a encore pas très longtemps dans un pays où étaient réunis des chefs d'entreprise, notamment dans des chaînes alimentaires, de ces produits de grande consommation, des grands distributeurs. Et quand je leur parlais de ça, ils avaient tendance à dire que tout ceci était un peu des histoires probablement, et que en réalité, Leur préoccupation, c'était d'acheter et de faire produire pas très cher pour pouvoir revendre et pouvoir faire commerce de pouvoir faire commerce de, des produits qu'ils mettaient sur le marché. Et avaient finalement un peu d'hésitation sur tout cela. Et je leur ai dit, je comprends votre hésitation, mais le temps va vous rattraper parce que les consommateurs vont vous rattraper. Et là, je sais qu'il existe quelque chose qu'on appelle la schizophrénie des consommateurs. À savoir que le consommateur, et c'est vrai de moins en moins, mais c'était très vrai, c'est de moins en moins vrai, et un jour ce sera peut-être vraiment plus vrai. Mais soyons aussi quelquefois un peu réalistes. Je vois, posez-vous la question, quand vous allez faire des courses et que vous voyez un vêtement à un prix de 100 et que le bac d'à côté propose exactement ou quasiment le même produit à 75, eh bien la tendance naturelle ce sera d'aller vers le produit à 75 parce que vous ne gagnez pas très bien votre vie, vous êtes jeune, vous devez faire attention au portefeuille. Donc, on va défendre le principe de dire « Non, non, moi, je n'achèterai jamais quelque chose. » Et là, je vais revenir sur « Dont je sais que… » Et puis finalement, au moment où il faut payer, on se rassure dans un petit coin, on va pas aller faire les courses avec ses copains, et puis on va acheter, et après on dira qu'on est de bons acheteurs. Donc, la schizophrénie des consommateurs existe. Deuxièmement, il y a aussi, je dirais, le respect des gens qui ont tout de même moins de moyens, et qui ne peuvent pas acheter des choses parfois un peu chères, parce que effectivement produites dans le respect de certaines normes qui font que le produit est plus cher. Et donc cela veut dire que cela appelle à une approche sur le plan mondial qui soit vraiment respectueuse de droits humains partout. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de différence de prix à cause d'une violation de droits humains. Donc on voit bien qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait. Ça prendra du temps, parce que les salaires versés dans certains pays, etc., ne sera jamais le même à droite et à gauche. Après, il y aura le transport. Mais voyez bien que la question n'est pas toujours aussi facile. Mais il y a quelque chose qui va progresser formidablement, c'est les mécaniques qui vont permettre aux consommateurs de savoir d'où vient le produit, comment il a été fait. Et je travaille beaucoup personnellement sur ces mécaniques, qui correspondent d'ailleurs à des mécaniques qui peuvent être utilisées par les entreprises pour, elles, démontrer qu'elles ont rempli toutes leurs obligations de moyens. Elles ont des obligations de moyens, elles doivent prendre tous les moyens dans toute leur chaîne de valeur pour montrer que les droits humains ont été respectés, même jusqu'au rang 10. Et ce mécanique sur lequel je travaille beaucoup, c'est la blockchain. Pourquoi ? Parce que la blockchain, on va mettre la blockchain de côté pour ce qui s'agit de la crypto-monnaie, qui n'est pas du tout mon sujet. Mais la blockchain, qui est cet instrument, cette mécanique qui permet de tracer la production d'un bien depuis le départ, depuis la laine coupée sur le dos du mouton, jusqu'au moment où le produit est dans une état, dans un magasin. Et on pourra mettre dans les codes, ça s'appelle ça les codes GR, je crois, et où on appelle ça aussi quelquefois sous forme de labellisation, quelle que soit la mécanique, on pourra, nous les consommateurs, voir. Les consommateurs vont exiger d'avoir ces étiquettes qui vont pouvoir nous démontrer quelle est l'origine. Et le jour où ça se fera, les consommateurs auront de plus en plus de mal d'acheter un produit en disant « je ne savais pas s'ils devaient savoir parce que c'est sur l'étiquette ». Et donc la prise de conscience va prendre du temps, et c'est normal. Le monde n'a jamais changé comme ça en 24 heures. Il faut du temps, par les mécaniques, par les façons de faire, par les prises de conscience des uns et des autres, des producteurs, des entreprises, des revendeurs, des intermédiaires, des consommateurs aussi. Et tout ça, tous ces gens seront les nouveaux juges de tout ça. Et tous ensemble vont, à un moment ou à un autre, devoir presque inconsciemment se mobiliser pour dire « Ah oui, non, là, il faut vraiment qu'on fasse attention. On ne peut pas ni gagner de l'argent quand c'est au détriment des droits humains, ni consommer quand c'est au détriment des droits humains. Il est absolument indispensable que pour l'équilibre de la planète de demain, les droits fondamentaux des êtres humains, on parle des droits fondamentaux, soient respectés dans ce que nous faisons ou dans ce que nous ne faisons pas. »
Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et bien, on a pu avoir ces discussions qui étaient vraiment très intéressantes et qui, je pense, vont intéresser le plus grand nombre. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.